Vous écoutez Active Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts.
Active
Sainté Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Hugo.
Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 127e Sainté Night Club. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et bien attaqué la semaine, je pense que oui. De mon côté, tout va très bien. Ça fait quand même du bien de commencer la semaine de la sorte par une belle et nette victoire surtout. Et ça faisait longtemps. Mais bon, on va essayer de ne pas commettre la même erreur que pour les autres victoires stéphanoises cette saison. Et on va rester zen en évitant de trop s'enflammer. Mais bon, on va quand même parler de cette belle victoire, tout d'abord parce que bon, c'est notre boulot au SNC, mais aussi car il y a quand même pas mal de choses positives à dire pour cette rencontre. Et pour ce soir, du coup, pour m'accompagner, on a deux super chroniqueurs. On a tout d'abord Hervé. Salut Hervé, comment tu vas ?
Salut Hugo, salut à tout le monde. Bah, écoute, ça va très bien. La joie et la chance, et même, j'ai envie de dire, d'avoir choisi le match d'hier pour aller au stade. Donc, du coup, un début de semaine parfait.
Ouais, c'est clair que qu'au stade, ça devait être bien sympa. Et en plus, pour accompagner Hervé, on a Alex. Salut Alex, comment tu vas ?
Salut, ça va ? Bah, ça va après une belle victoire. Voilà, très 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 content de débriefer la plus belle victoire de la saison, certainement. Et puis content de croiser ton chemin, Hugo, et celui d'Hervé, parce qu'on a des petites choses à faire en fin d'émission avec Hervé, voilà, ouais, pour entretenir le complot.
on verra ce que ça a donné ce match. Et pour finir, on a au chat, on a Gabriel. Salut Gabriel, comment tu vas ? Allô, allô Gabriel, petit souci de micro. Allô ? Bon. Pas de Gabriel, il nous rejoindra sans doute après. Tout le monde est prêt, ou presque en tout cas, du coup. On va passer donc tout de suite au débrief. À tout de suite.
Active Sainté Night Club, le débrief.
Une belle victoire, enfin. C'était compliqué quand même depuis le début de l'année 2024 pour nos Verts. Une seule victoire contre Pau et beaucoup de prestations décevantes. Cette victoire fait quand même du bien. Personnellement, ça faisait un bon moment que je n'avais pas pris autant de plaisir devant un match de Sainté. On tient enfin un match qui peut peut-être servir de match référence, tant ce qui a été proposé dans le contenu était quand même au-dessus de ce qu'on a vu ces dernières semaines. Bon, comme je l'ai dit dans l'introduction, attention de ne pas trop s'enflammer avec cette équipe, on ne sait jamais. De plus, le match était quand même contre un adversaire plutôt faible, mais dans le contenu, dans l'intensité, dans l'implication, on était quand même dans le vrai. Hervé, t'en as pensé quoi, toi, de ce match vu du stade ? Est-ce qu'on peut parler du meilleur match de la saison pour nos Verts ?
Alors, j'irai pas jusque-là, parce que le score, effectivement, c'est pas que le score est flatteur, parce qu'on mérite de mettre ses 5 buts, on mérite même d'en mettre notamment Cardona, qui sur son temps de jeu aurait eu l'occasion lui de sortir avec un doublé, donc on aurait même pu mettre plus de buts, donc c'est même pas le côté score flatteur, mais score fleuve, voilà, j'insiste là-dessus. Moi je suis pas vraiment convaincu tant que ça en fait par le match d'hier, parce que on fait un premier quart d'heure très très bon qui sanctionne les Troyens d'un but contre son camp, même si il y avait du monde pour la pousser au cas où. Mais entre le quart d'heure, la 16e minute où on marque, et la 38e minute, le deuxième but de Sissoko, on ne met plus un pied devant l'autre. Alors, 3 ne nous a pas inquiétés. L'Arsenal a eu un arrêt à faire en toute fin de match et c'est tout. On a réussi à les contenir pendant ces grosses 20 minutes-là, entre les deux buts qu'on met, les deux premiers. Mais c'est vrai que moi, ça m'a sauté aux yeux le fait qu'après ce premier but, on s'est complètement éteint, on n'avait plus la même intensité que sur le premier quart d'heure. On avait une équipe un petit peu plus disloquée, et puis 3 qui commençaient à mettre le pied sur le ballon et à reprendre confiance. Et il a fallu quand même ce deuxième but. Après, on a très bien fini la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus récital et ils n'ont vraiment rien eu à se mettre sous la dent. Mais moi, c'est pour ces grosses 20 minutes de première mi-temps entre les deux buts où on n'avait plus du tout la maîtrise de rien du tout, qui me fait dire que ce n'est pas le meilleur match de la saison. J'avais eu le bonheur d'être contre Angers au match aller, on gagne 2-0, où là, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Et pour moi, c'est ce match-là encore qui reste le match référence pour cette saison.
Ouais, c'est vrai que le match contre Angers était quand même très très bah, de un beau niveau pour la Ligue 2 en fait, tout simplement un vrai match pour notre championnat. Alex, t'en penses quoi toi de ton côté de ce match meilleur match de la saison pour toi, ou toi aussi tu penses que Angers était quand même légèrement au-dessus?
Non, j'ai pas la même analyse qu'Hervé. En fait, j'ai vraiment la sensation que Saint-Étienne a livré sa meilleure prestation de la saison, et c'est pas le score en fait qui me fait dire ça. Ce sont les attitudes. Alors, des attitudes qu'on avait déjà vues peut-être contre Angers, en effet, avec de l'engagement, avec une équipe qui n'est d'abord pas dans le calcul parce qu'elle n'a pas le luxe de pouvoir l'être. Mais voilà, une équipe qui joue décomplexée. Non, parce que j'ai trouvé que, bah oui, ce premier quart d'heure a été extrêmement compliqué pour Troyes, mais parce que Saint-Étienne l'a bien voulu, avec un Cafaro. Qui était, comme on le voit trop rarement, malheureusement, c'est-à-dire virevoltant, insaisissable, bon centreur du pied gauche, qui m'a poussé à me demander si finalement il n'était pas gaucher. Tant du pied droit, parfois, c'est catastrophique. Et puis un bloc qui fonctionnait comme un bloc équipe et pas comme des joueurs qui jouent leur partition chacun de leur côté. Donc moi, j'ai trouvé ça très positif. Même après ce premier quart d'heure, j'ai trouvé ça quand même positif parce que peut-être qu'on a bien voulu aussi laisser à Troyes cette réaction d'orgueil. Peut-être qu'à un moment donné, on était dans le contrôle. Moi, quand je vois 9 tirs encadrés, c'est que vraisemblablement, à moins que les Troyens soient vraiment mauvais, on ne les a pas laissés dans des positions de tir en capacité de cadrer les frappes. S'il n'y a qu'un tir cadré, et je crois qu'il est en deuxième mi-temps, c'est aussi que les tirs étaient forcés ou n'étaient pas en bonne position. Donc, je suis, pour ma part, persuadé que c'était la meilleure prestation de Saint-Étienne hier dans les intentions et dans finalement ce qu'ils ont montré collectivement.
Bah c'est bien, c'est intéressant que vos avis soient pas les mêmes. Ça va y avoir de la discussion, c'est chouette. Gabriel, est-ce que t'es parmi nous? C'est bon? Toujours pas. On t'entend pas. Je sais pas si t'essayes de parler. Bon, on viendra au chat après. Messieurs, je voulais venir du coup à la composition, parce qu'on a eu un peu quand même d'innovation de la part d'Olivier Dalloglio. Le 4-3-3 habituel s'est plutôt décliné en 4-2-3, un peu plus offensif avec un Chambaud plus avancé que ses compères Mouefek et Monconduit. Il y a Bouchouari qui enchaîne son deuxième match sur le banc aussi, c'est à noter, lui qui était quand même habitué à figurer dans l'équipe type depuis le début de la saison. Sissoko qui fait aussi un retour fracassant à la pointe de l'attaque et qui a été préféré à Cardona qui parvient pas, toujours pas à marquer. Enadé toujours préféré à Petro en défense centrale en l'absence de Batoubitsika. Alex, je vais te laisser la main. Tu en as pensé quoi toi de cette composition plus offensive que d'habitude quand même et des choix d'Olivier Dalloglio?
Alors, quand j'ai vu la composition, j'étais pas forcément, alors pas dire pas ravi. En fait, j'ai un petit problème avec la titularisation de Thomas Monconduit. Je comprends qu'on le titularise pour son profil, parce qu'il est un des rares à avoir ce profil, à pouvoir suppléer Tardieu. Maintenant, c'est un joueur que je trouve tellement poussif, tellement lent, tellement depuis le début de saison, de toute façon, pas dans le même projet que ses copains, que j'ai toujours du mal quand il est titularisé. Après, je ne veux pas tomber dans le délit de faciès, peut-être qu'il y en a un peu, et je crois qu'il faut aussi lui laisser sa chance. Il ne m'a pas montré plus de qualité que ce que je lui en connaissais, il m'a montré qu'il n'avait pas forcément de sang-froid pendant la rencontre, ce qui fait qu'il a obtenu un carton jaune qu'il aurait largement pu éviter. Bon, voilà, pour moi, c'est la bonne doublure de quelqu'un qui doit être titulaire à sa place. Est-ce que c'est Tardieu? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Parce que mine de rien, on se rend compte que quand Tardieu n'est pas là, hier, Tardieu ne manque pas. Donc le Tardieu avec la forme qu'il avait ces dernières semaines est un Tardieu qui ne doit pas débuter la rencontre. Après, Mouefek, oui, Chambost, je faisais partie des gens qui n'étaient pas convaincus. Je serai l'année prochaine toujours pas convaincu, surtout si on a le bonheur de monter en Ligue 1. Mais il faut quand même lui accorder quelque chose, c'est qu'il a une vision du jeu que peu d'autres joueurs ont dans cette équipe, une qualité technique finalement que peu d'autres joueurs ont également, notamment au niveau de la technique de passe. Et il a éclairé le jeu offensivement en lançant les flèches de manière intéressante. Donc, pour moi, c'était un grand oui. Je ne parle pas de la triplette offensive qui a fait le boulot, rien à dire. Et puis Nadé, qui est vraisemblablement un très bon remplaçant de Batoubine Sika. Donc, on peut compter sur trois excellents centraux, en tout cas avec ce que j'ai vu hier, on peut le dire.
De ton côté, toi, Hervé, aussi convaincu que Alex par cette composition et choix de Daluglio?
Disons, moi, quand j'ai vu la composition, ce qui m'a un petit peu frappé, c'était, et on en avait parlé sur le SNC il y a quelques temps, c'était un petit peu des joueurs qui avaient une espèce de pouvoir de dissuasion sur l'adversaire, de par leur capacité physique, de par leur carrure. Donc, Batoubine Sika rentre complètement là-dedans, Briançon un petit peu aussi. Fomba, qu'on aime ou qu'on n'aime pas physiquement, il fait partie des joueurs. Parce qu'il faut se le taper, hein. S'il est un petit peu au marquage ou quoi, c'est pas toujours évident d'avoir une grande tige comme ça, comme Fomba, à contrôler pendant le match ou lui qui est sur vous. Et c'est vrai que moi hier, je me suis dit, mais qui va être un petit peu leader de cette équipe? Et au final, avec Tardieu, c'est vrai qu'on a un petit peu voilà l'expérience, la vision du jeu, capacité à jouer court ou à jouer long. Monconduit, on sait jamais trop à quoi s'attendre, donc. Du coup, je m'étais dit, ça risque d'être une équipe de 20 garçons, en fait. Et force est de constater que Chambaud a pris ce rôle. Moi, j'ai pu l'observer des tribunes et j'ai remarqué qu'il avait énormément, énormément parlé à ses coéquipiers, qu'il les replaçait sans cesse. Il était très actif de ce point de vue-là. Alors après, est-ce qu'il a la légitimité, pardon, pour le faire? Est-ce que tous les joueurs vont accepter que ce soit Chambaud qui soit un petit peu à la baguette? Je n'en sais rien. Et si je dois savoir, j'en douterai un petit peu. En attendant, sur le match d'hier, effectivement, comme l'a dit Alex, il a éclairé le jeu. Il est dans l'action de tous les buts. Pas forcément à la passe D, mais à l'avant-dernière passe, celle qui crée le décalage pour Cafaro, celle qui remet en jeu. Il a été dans tous les bons coups hier, Chambaud. Il n'a pas touché 50 000 ballons, mais tout ce qu'il a fait, ça a été propre. Il a perdu très très peu de ballons. Donc pour moi, Chambaud, hier, c'était un petit peu le taulier inattendu du milieu de terrain. Mouéfèque, on connaît sa vaillance, on connaît sa niaque, on connaît tout ça. Sur un match comme hier, on l'a un petit peu moins vu parce que c'était justement dans un jeu un petit peu plus léché. On n'était pas sur les duels de tous les seconds ballons, on n'était pas avec que des ballons. En l'air, il y avait beaucoup de jeux au sol hier. Donc, dans ce registre-là, Mouéfèque fait ce qu'il a à faire, mais on le voit un petit peu moins parce qu'il a des qualités qui ne s'expriment pas quand on a la même mise sur le jeu, en fait. Et pour moi, je le redis, Chambaud hier est vraiment le gars qui était au-dessus des autres, en tout cas au milieu de terrain.
Ah mais c'est intéressant de t'avoir le point de vue de quelqu'un qui était au stade, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on remarque pas forcément avec notre télévision. Gabriel, est-ce que t'es parmi nous? C'est bon? Cette fois-ci. Allô Gabriel, dernier test. Bon, on t'entend toujours pas, on viendra au chat un peu plus tard. Messieurs, je vais rester sur la composition. Rapidement, je vais un peu vous relancer sur ce que vous avez dit. Mais j'ai testé la main d'ailleurs Hervé. Toi, t'as cité Chambaud parmi les joueurs qui t'ont marqué. Si tu en citais d'autres parmi tes tops, tu parlerais de qui?
Alors pour le geste quand même, parce que là en termes de passe décisive, c'est quand même Maldinienne qui nous a sorti, c'est Nadé. Alors qui est un petit peu brutos, qui est un petit peu pato par moment, mais qui lui pour le coup impose une vraie bataille physique. Moi Nadé, ça fait quelques matchs, je le sens libéré. Je ne sais pas si c'est le changement de coach, si c'est... Mais je le trouve beaucoup plus serein que ce qu'il a pu être. Alors, il est toujours capable d'avoir un ou deux craquages par match, mais ça coûte pas des pénaltys, ça coûte pas des buts comme ça pouvait le faire avec lui à une certaine époque. Je trouve qu'il a gagné en sérénité. Il est très propre dans ses relances de plus en plus. La passe décisive qu'il fait hier pour Sissoko, on voit que c'est maîtrisé et que c'est ce qu'il veut faire. Non, Nadé, moi, je le mettrais aussi sur le podium. Et puis après, devant, on a un peu l'embarras du choix, mais belle montée en puissance de Mboukou, qui physiquement était arrivé vraiment trop juste et qui voilà, petit à petit a gagné du temps de jeu, devient de plus en plus décisif. Mais je mettrai quand même Sissoko parce qu'il met déjà d'une un super but. Et comme je l'ai dit en préambule, un but très important parce qu'on commençait à un peu perdre le fil du match. Ça nous a bien remis dedans. Et puis surtout aussi parce que des joueurs qui partent à la CAN à Saint-Étienne, on est habitué. Des joueurs qui reviennent et qui performent tout de suite, ça, on était un petit peu moins habitué. Donc de très bon augure pour la suite. S'il a vraiment la tête à Saint-Étienne en rentrant de la CAN, c'est tout bénef pour nous, quoi.
Tout bénef, tu l'as dit. Alex, de ton côté, est-ce que c'est les mêmes joueurs qui t'ont marqué ou t'as d'autres noms à citer?
Non, ben, on va évidemment citer Van Masson, hein, fait un match qui pour moi est le match qui va lui permettre de tourner la page de ses déclarations d'il y a un an. Bon, voilà, l'idée, ce n'était pas de dire il faut que Masson marque un but pour qu'on oublie ses paroles. Et puis l'idée, ce n'était pas non plus de le condamner toute sa vie pour ce qu'il avait dit. Mais je trouve que son implication depuis qu'il est revenu et le niveau qu'il affiche depuis son retour à Saint-Étienne sont de nature à nous faire poser quelques questions, peut-être, sur le fait qu'il n'ait peut-être pas commencé la saison avec Saint-Étienne. Il y avait certainement d'autres choses, d'autres problèmes. Peut-être qu'il lui fallait ce passage à l'étranger et de revenir de manière forcée pour peut-être bah, lui aussi forcer sa nature et se remettre la tête à l'endroit. En tout cas, il a su le faire. On l'a vu hier. J'espère juste que c'est un joueur qui ne va pas faire retomber la pression sur lui-même, qui va conserver ce niveau de performance. Parce qu'à Saint-Étienne, on a quand même un magnifique défaut qui est celui de s'emballer et de se voir beau très rapidement. Et bah, on le voit dans toute la communication du club et encore sur les réseaux sociaux hier soir. On oublie un peu rapidement qu'on a été défait à Dunkerque 1-0 il y a une semaine, qu'on avait été assez pitoyable à Dunkerque. Donc oui, 5-0, oui, la joie, mais beaucoup d'humilité. Et je trouve que voilà, j'ai aimé le niveau affiché par Masson dans ce match qui, je l'espère, est un match de la réaction et de la fondation de plusieurs succès qui vont s'enchaîner.
L'humilité, tu l'as évoqué, c'est important, je pense qu'on y reviendra après. Gabriel, est-ce que ça y est, tu m'entends, tu nous entends, est-ce que tu es avec nous?
Vous m'entendez?
Ouais, c'est tout bon, parfait.
Magnifique, Gabriel,
Voilà.
bonsoir.
Super.
Et est-ce que
Salut.
Bonsoir,
Ouais,
excusez-moi.
pas de
Gros problème de
souci.
connexion.
Pas de souci, ça arrive, c'est les imprévus du direct, on fait avec. Et du coup, je vais te donner la parole quand même dans le chat. Qu'est-ce qui se dit un peu au niveau de la victoire, de la prestation des Stéphanois et aussi de la composition qu'on a évoquée?
Alors globalement, du coup, sur le début, du coup, de ce qu'on entendait, on a beaucoup quand même de tempéra, enfin, on tempère beaucoup la victoire d'hier. Il y a beaucoup de messages qui rappellent que ce n'était que 3 et que le match plutôt référence était contre Angers, notamment, donc le 2-0, comme en parlait Hervé tout à l'heure. Notamment Jo 42 qui nous dit que justement, c'est pas un match référence pour moi car l'adversité était très très faible. Et sinon, comme là vous parliez plutôt de la compo et des joueurs personnellement, on a beaucoup de messages qui reviennent sur Chambaud, qui a fait un match très juste, qui nous a fait du bien. Il a fait jouer les autres et c'est bien le seul. On a Albert sur YouTube qui nous dit très bon match de Briançon, pour moi c'est l'homme du match. Donc on a ouais, des messages sur Chambaud qui reviennent. Hugo Billy, c'était Hervé ou Alex qui en parlait, qui revient sur Masson, qui a montré beaucoup de caractère et de combativité. Et sinon, il y a Albert aussi qui tempère sur Nadé, qui dit que Nadé a eu beaucoup de mal avec son attaquant, il aurait pu prendre un carton rouge. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est sorti très tôt, une fois le score acquis. Et sinon, il y a Jo42 et Pascal CHN1 sur Twitch qui finissent par dire que Saint-Étienne est quand même meilleure défense de Ligue 2. Donc c'est à retenir.
Parfait, merci Gabriel, ça fait plaisir de t'entendre. Moi, l'autre chose que je voulais aborder, notable de cette soirée, c'est que c'est une victoire quand même à Geoffroy Guichard à domicile. Et je me souviens que lors de ma dernière émission, il y a 2 semaines, j'avais dit que les Verts étaient meilleurs à l'extérieur qu'à domicile cette saison. C'est assez curieux quand même lorsqu'on joue dans un stade mythique comme Geoffroy Guichard. Et avec les chroniqueurs, on avait dit que le problème du groupe était peut-être dans la tête lié à la pression. Là, hier soir, on a quand même eu l'impression qu'ils n'ont pas trop ressenti cette pression et qu'ils ont joué assez libérés. La banderole des Green Angels a peut-être fait du bien à certains. Briançon disait même avoir fait lire les banderoles des Ultras à ses joueurs. Alex, cette victoire tombe quand même au bon moment, devant des copes qui ont donné de la voix. Tu penses que c'est une victoire plus satisfaisante que si c'est à l'extérieur, dans le contexte actuel?
Une victoire, elle est satisfaisante, quoi qu'il arrive. Donc, une victoire 5-0 est encore plus satisfaisante. À Saint-Étienne, c'est bien parce que ça permet de remettre l'église au milieu du village. Moi aussi, je pense que ce groupe a un problème. Je parle au présent, hein, je ne parle pas au passé, parce qu'encore une fois, c'est une victoire sur beaucoup de journées où on a déchanté. Mais je pense qu'il y a un problème psychologique dans cette équipe, de joueurs qui n'ont pas, à mon avis, le caractère, ou en tout cas qui ne l'ont pas démontré jusqu'à présent, ce caractère. Hier, ils ont démontré du caractère. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les entraînements, pendant l'opposition qu'il y a eu également la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui a été dit, je sais qu'il y a eu des entretiens, je sais que voilà, les joueurs ont pu évacuer des choses, ont pu évoquer des choses. Mais ça veut dire peut-être que Olivier Dall'Oglio a actionné un levier qui a fonctionné. Maintenant, et c'est Patrice Ferry qui le disait hier au commentaire sur beIN Sports, maintenant, ces joueurs peuvent plus dire qu'ils ne peuvent pas avoir ce niveau-là. On peut exiger d'eux qu'ils jouent à ce niveau-là lors de prochaines rencontres. Même si c'est trois en face, même si c'est peut-être l'équipe la plus faible que j'ai vue évoluer, en tout cas celle qui a capitulé au bout de 37 secondes de jeu, n'empêche que Saint-Étienne y est aussi peut-être un peu pour quelque chose. Il ne faut pas non plus attribuer qu'à la faiblesse de 3 le succès 5-0 d'hier soir. 3 n'était pas dans son assiette, 3 n'était pas au niveau, certes, mais Saint-Étienne a largement contribué à ça. Donc oui, je pense que psychologiquement, cette équipe a activé un levier, a eu un déclic, et tant mieux si ça s'est passé à Geoffroy Guichard.
Hervé, tu en penses quoi, toi, de cette victoire à Geoffroy Guichard plus importante, peut-être plus satisfaisante aussi qu'une victoire à l'extérieur?
Bah, c'est plus satisfaisant, oui, de gagner les matchs à la maison, d'autant plus qu'en début de saison, certains avaient annoncé qu'il fallait que Geoffroy Guichard soit citadelle imprenable, et on s'aperçoit que c'est une vraie passoire, malheureusement, Geoffroy Guichard. Plusieurs choses sur l'adversité, effectivement, hier 3, c'est pas le Real Madrid, on est bien d'accord, mais quand on va perdre à Dunkerque, c'est pas le Real Madrid non plus qu'on a en face. Quand Rodez nous rouste depuis 2 ans, c'est pas le Real Madrid non plus. Donc des équipes plutôt mauvaises et qui viennent nous taper ou qui nous tapent chez eux, on en voit beaucoup trop depuis 2 ans. Donc bon, ben pour une fois, si c'est nous qui arrivons à être moins pire que l'adversaire, on va aussi se satisfaire de ça. On perd des matchs contre des équipes qui ne sont pas des cadors. Donc là, sur le niveau des autres, moi, j'aime jamais trop dire ah, on gagne parce que les autres sont mauvais. Je suis plutôt d'accord avec Alex. Si les autres sont particulièrement mauvais, peut-être qu'on y est aussi pour quelque chose à des moments. Après, sur ce côté de perdre autant de matchs et de points à la maison, avec le côté peut-être psychologique, ça, moi, j'y croyais l'année dernière, en tout début de saison. Alors on était à huis clos, c'était encore particulier, mais tant qu'il y avait des joueurs qui avaient vécu la descente, le côté un petit peu traumatisant, que ce soit pour le sportif ou pour l'humain, le citoyen, hein, lambda, connaître une descente avec Saint-Étienne, que ça traumatise des joueurs et qu'ensuite ils soient un petit peu pétrifiés à l'idée de rejouer à Geoffroy Guichard, d'autant plus avec les scènes qu'on avait vues lors du barrage face à Auxerre, ça je voulais bien croire, que certains avaient un petit peu la tête embrumée par tout ça. Là, honnêtement, c'est des joueurs qui sont tous arrivés, il y en a quasiment plus qui ont connu la descente. Tous, ils arrivent avec le même discours, un petit peu de lipette, de dire c'est une fierté de jouer dans ce stade, c'est une fierté de porter ce maillot, un club légendaire, des supporters magnifiques, etc., etc. Bon, si derrière ça leur met trop la pression pour pouvoir s'exprimer et jouer au foot convenablement, moi bon, j'ai un petit peu de mal moi avec cette excuse-là. Je pense qu'on a un effectif de qualité, mais avec également beaucoup de limites. Je pense qu'on a des joueurs qui ont une image d'eux-mêmes qui ne correspond pas du tout à la réalité et que finalement, c'est toujours la faute de quelque chose et jamais la leur. C'est vrai que c'est la pression du public qui fait que Cafaro nous réussit un match sur quatre. C'est la pression du public qui fait que, je ne sais pas, moi, Bouchoirie tricote tout le temps dans ses 30 mètres et jamais dans les 30 mètres adverses. Mais voilà, on pourrait en trouver plein, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment du mal avec cet aspect psychologique de dire que ça les tétanise ou quoi. Moi, je pense plutôt qu'au contraire, je suis désolé de l'expression, on a une belle bande de branleurs et qu'ils attendent d'être vraiment au pied du mur pour un petit peu se réveiller. Moi, je serais plutôt dans cette analyse-là, pardon, plutôt que leur trouver des excuses de pression ou de je ne sais quoi.
Mais ça s'entend complètement, Hervé. Gabriel, au chat, est-ce que les auditeurs sont d'accord avec le constat de nos chroniqueurs? La psychologie, c'est une fausse excuse, t'en penses quoi? Enfin, le chat, t'en penses quoi plutôt?
On est plutôt sur la même longueur d'onde. On a Amélie 43 qui déjà veut tempérer. Elle dit que, ou il ou elle, je sais pas, m'ont tellement déçu depuis le début de saison que malgré la victoire, je ne saute pas au plafond. Hors de question de penser barrage, même cette cinquième place est un piège. On a Tom 422 qui nous dit que ça veut surtout dire que l'effectif est capable, parce que certes, ce n'était que trois. Mais on n'arrive pas à mettre 5 buts comme ça sans rien produire. Il fallait quand même produire du jeu et beaucoup d'équipes de Ligue 2 ne sont pas capables de mettre 5 buts dans un match. On a Albert Pilia qui fait justement référence à la discussion qu'il y a eu apparemment cette semaine entre les joueurs. Donc les joueurs se sont parlé, ça a dû jouer. Mais n'oublions pas que ce n'était que 3 qui a manifesté une telle faiblesse technique, notamment côté droit, que ce n'était même pas du niveau de national. Et Tom 422 qui justement revient là-dessus pour dire qu'il est d'accord, c'est pas la peine de s'enflammer, mais il faut quand même reconnaître que le changement de visage est spectaculaire et fait beaucoup de bien. Donc ça, je pense que tout le monde a pris plaisir hier soir. Et sinon, on a quand même Leïla et Céline sur Twitch qui dressent quand même un petit, même gros bémol, moi je trouve, c'est qu'on a quand même pris 4 cartons jaunes hier qui risquent de peser, alors que l'engagement physique n'était pas forcément, enfin le match n'était pas du tout trop engagé pour prendre autant de cartons jaunes. Donc, à voir si cela nous sera préjudiciable pour la fin de saison.
C'est
Alors,
vrai
moi,
pour le
juste
coup.
sur les. J'aimerais
Vas-y,
juste,
Hervé,
pardon,
ouais.
mais je te coupe, j'aimerais
Pas de
réagir sur
souci.
l'histoire des cartons. Moi, j'ai plutôt vu ça comme quelque chose de bien, justement. Parce qu'il y a tellement de matchs où on ressortait avec un seul carton ou pas de carton, et on se le disait, on se disait, putain, les mecs, ils vont même pas au contact, puisqu'il n'y a jamais de carton. Là, les premiers cartons, au moins les deux premiers, on les prend, c'est encore à 0-0. Donc c'est même pas le truc de dire ils sont pas concentrés, blash. C'est que d'entrée de jeu, effectivement, hier, ils sont rentrés dans l'art de l'adversaire. Est-ce que 3 s'attendaient pas à ça et ils se sont fait surprendre? Chez nous, on en a, hein. Cafaro, il suffit que sur les deux premières interventions de son adversaire direct, il va le dingue. Cafaro, il est inexistant tout le reste du match. Ben, peut-être que hier, on est tombé sur 3-4 Troyens qui, dès les premiers duels, se sont fait un petit peu rentrer dedans. Ils s'y attendaient sûrement pas. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait ce qu'on disait, hein, qui a fait qu'au final, 3 a vite démissionné parce que cette notion un petit peu de rentrer dedans, c'est pas d'aller casser les jambes des mecs, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Surtout qu'il y a eu un ou deux cartons complètement stupides. Mais je trouve que le fait de prendre des cartons dans un championnat de Ligue 2, je vais pas dire que ça doit faire partie de la panoplie, mais un petit peu quand même, à partir du moment où on reste à 11 contre 11, à partir du moment où c'est pas pour blesser l'adversaire, mais pour plus marquer un petit peu son territoire et promettre à l'adversaire un match compliqué, un peu rugueux, moi ça me dérange pas.
Ouais, non, mais t'as raison, c'est important de. Ouais, vas-y,
D'ailleurs,
Alice.
on prend 5 cartons hein, hier soir.
Oui, il y en a 5 en
Y
plus.
en a 5, ouais,
Cardona
il
qui
y a
le prend à la
Cardona, ouais,
fin.
qui. Ouais, sur un petit. Mais c'est vrai que l'arbitre a eu peut-être un peu de mal à tenir son match, ça partait un peu en tous sens parfois, avec quelques fautes, pas mal de fautes en fait, il y avait beaucoup de fautes dans le jeu. Alex, je vais te relancer sur ce qu'a dit Hervé là, t'es d'accord avec ce qu'il dit, notamment au niveau de l'intensité qui a été mise, c'est important de se montrer en fait à domicile face à ce genre d'adversaire?
Ouais, moi j'ai quand même une analyse qui rejoint celle d'Hervé parce que je pense qu'il fallait mettre du caractère aussi pour forcer cette réaction. On attend de la personnalité du caractère de cette équipe. Ça passe pas en cassant des jambes, mais ça passe en mettant le pied, en montrant qu'on est là à l'adversaire. C'est peut-être aussi ce qui a fait un peu déjouer Troyes, même si je pense qu'il y a d'autres choses qui l'expliquent. Quoi qu'il en soit, bah oui, on a Briançon et Nadé qui étaient tous les deux avertis à la 35e minute. Mais au-delà du problème que ça peut poser pour la suite du match, ça montre aussi qu'on a deux centraux qui imposent un combat aux offensifs troyens qu'on n'a pas vu. Il faut être clair, on les a pas vus. Voilà. Voilà, après, oui, Monconduit, il a un carton bête, Cafaro, il a un carton bête, Cardona, un carton bête. On peut finir à deux jaunes en montrant les mêmes choses, le même caractère. On finit à cinq jaunes. À mon avis, l'arbitre n'a pas tout à fait gardé son sang-froid sur quelques situations, notamment Cardona, qui, à mon avis, ne mérite pas ce carton jaune, même s'il se rebelle un peu. Le gardien l'avait quand même bien. Bien cherché, voilà.
Et du coup, le chat l'a pas mal dit. Interdit de s'enflammer, on connaît maintenant la leçon avec Saint-Étienne. Après le match, Olivier Dalloglio a même déclaré, je cite, que c'était ce visage qu'il souhaitait voir régulièrement. Et j'insiste sur le régulièrement car je ne veux pas de ça de manière occasionnelle. Le capitaine Briançon aussi a également a caché un peu sa satisfaction en zone mixte après le match en évoquant cette nécessité de retrouver de la régularité et d'enchaîner les bonnes prestations. Donc voilà, une victoire ça fait du bien, mais le plus important sera quand même de poursuivre avec la même implication lors des prochains matchs, avoir de l'humilité comme tu le disais Alex. Alex d'ailleurs, je vais te donner la parole. Tu penses que les Verts peuvent relancer une série ou pour toi il s'agit d'un simple sursaut d'orgueil face à un adversaire tout de même plutôt faible?
Je pense que la série, en fait, c'est. Alors qu'ils puissent la relancer, oui, ils peuvent la relancer, mais je crois surtout qu'elle devient un petit peu obligatoire. Si on veut jouer quelque chose dans ce championnat, il va falloir que cette série arrive parce qu'on a quand même la chance d'être dans un championnat cette année qui est, alors, est-ce qu'il faut dire d'une grande faiblesse, est-ce qu'il faut dire extrêmement homogène? En tout cas, quand on voit le classement et quand on voit qu'avec quasiment autant de victoires que de défaites, on est classé septième, c'est que c'est un championnat qui est extrêmement impossible à prédire en termes de résultats. Donc, on va à Angers deuxième, on reçoit Annecy qui semble à notre portée, on va à Paris qui reste toujours dans notre championnat pour le moment. On reçoit Auxerre qui est premier. Si on lance une série maintenant, bah, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'on aura battu le premier, le deuxième, un concurrent direct et puis Annecy au milieu de tout ça. Franchement, c'est vraiment un très bon signe si on lance une série. Si on ne lance pas de série, si en effet les équipes réputées peut-être plus fortes que nous gagnent contre nous, je crains que Saint-Étienne reste dans un ventre mou, rate le bon wagon et finalement se laisse décrocher parce qu'à un moment donné, il y a des équipes qui vont se détacher. Et si ce n'est pas Saint-Étienne, ce sera d'autres.
Hervé, d'accord avec ce constat, toi, de la part d'Alex?
Ben oui, le temps passe, hein, on est déjà quasi, on est mi-février, hein, donc la saison se terminant mi-mai, on en a déjà mangé, on en a déjà croqué pas mal. Moi, outre les résultats, pour le coup, j'aimerais, on ne gagnera pas tous les matchs, hein, jusqu'à la fin de la saison, ça on est tous d'accord là-dessus, mais ça serait au moins que la série se passe dans le jeu, dans ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire dans l'état d'esprit. Moi, qu'on perde, par exemple, samedi à Angers, si Angers est meilleur que nous, mérite sa victoire, à partir du moment où on perd la tête haute, j'ai envie de dire, ça sera, à mes yeux, moins grave que si on y repart la fleur au fusil, comme on fait face à Dunkerque, et où là, par contre, on va se faire vraiment piétiner là-bas, et c'est peut-être nous qui prendrons le 5-0 si on n'est pas dans de bonnes dispositions mentales. Donc, il y a la série, on va dire, comptable, qu'il faut de toute façon enclencher. Mais moi, j'aimerais aussi et presque surtout que ça soit en termes de jeu, que ça puisse vraiment partir sur quelque chose de solide, d'identifiable, d'identifié, qu'on ne se retrouve pas à faire une série un petit peu comme celle qu'on a fait pendant 10 matchs en trompe-l'œil, où moi, j'étais le premier content de prendre les 3 points, mais où on se rappelle qu'en termes de spectacle, de jeu, de rythme imprimé, on n'était pas bon, mais on arrivait à gagner les matchs. Là, j'aimerais bien que sur la série qui, je l'espère, a commencé hier, on prenne des points, mais qu'on soit également irréprochable dans l'état d'esprit, dans la manière d'arracher les points, les victoires.
Mais on espère.
En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il ne va pas falloir rater ce match, ça c'est évident, mais nous, on est supporters, on ne le ratera pas. Mais c'est un match extrêmement intéressant, on en parlera tout à l'heure, hein. Je sais qu'il y a une partie d'émission là-dessus, parce que Angers doit se dire, aïe aïe aïe, on a un Saint-Étienne qui arrive gonflé à bloc. Je pense aussi que cette victoire des Verts a remobilisé Angers.
Ouais, c'est possible, c'est une éventualité, ouais. Bah justement, on va y venir à ce match contre Angers. Avant, Gabriel, au chat, est-ce que les auditeurs espèrent le début d'une série comme nos chroniqueurs ou soient un peu plus pessimistes et craignent peut-être simplement un sursaut d'orgueil contre cette équipe de 3?
Pas forcément du pessimisme, c'est toujours de la prudence, on va dire. On a Pascal qui nous dit que Olivier Dalloglio a bien fait de dire qu'il ne fallait pas s'enflammer après ce match contre Troyes. Le vrai test, c'est Angers. Amélie sur YouTube qui nous dit que le vrai souci de l'équipe, le vrai souci de l'équipe, impossible de savoir s'ils ont été meilleurs que l'adversaire ou si c'est l'adversaire qui a été très faible. Nous, par contre, quand on est mauvais, ça se voit directement. Albert Pilia qui nous dit qu'il y a quand même du positif puisque les Verts ont gagné 5-0, un match qu'ils avaient déjà joué à peu près de la même manière contre Pau où on avait gagné que 1-0, donc il y a quand même des progrès, mais on le verra que après Angers si c'est vraiment positif. Stéphane Nouchi qui nous dit que le problème c'est la régularité de l'effectif qui est de bonne qualité mais ne le montre pas assez. Et pour conclure, Albert sur YouTube qui nous dit que si série il y a, elle sera convaincante puisqu'on jouera Angers et Auxerre. Donc la série voudra forcément dire quelque chose. On ne doit plus afficher un autre état d'esprit que celui qu'on a vu hier soir.
Et avant de passer justement à ce match contre Angers qui va être capital, je vous propose quand même de faire un tour rapide d'horizon de notre Ligue 2. Puisque si on se concentre sur le top 5, il y a Angers et Auxerre qui sont presque inatteignables, qui ont quand même quelques longueurs d'avance. Auxerre a quand même poussé son poulain à la faute ce week-end en s'imposant, son dauphin plutôt, je sais pas pourquoi je dis poulain, à la faute ce week-end en s'imposant à 0. Et c'est sur la suite peut-être qu'il faut plus se tourner pour nos Verts, puisque Grenoble et Laval patogent un peu depuis le début de l'année. Ils sont tous les deux à 5 points d'avance, ils ont tous les deux 5 points d'avance sur Saint-Étienne. Ensuite, on a Caen, 5e, qui a seulement un petit point d'avance sur nos Verts. Bon, on a dit de pas trop s'enflammer, mais lorsqu'on regarde le classement comme ça, mathématiquement, la SSE est quand même toujours dans le coup. Hervé, de ton côté, est-ce que tu penses que le top 5 est toujours jouable, la montée aussi?
Bah, le top 5 est jouable parce que déjà mathématiquement, on en est tout proche, et que si on regarde un petit peu les séries, les dynamiques, Angers sur les 5 derniers matchs, il y a 2 victoires et 3 défaites. Nous, on a 2 défaites, 1 match nul et 2 victoires. Donc, on prend un point de plus qu'eux. Ajaccio, qui est devant nous, a gagné que 2 matchs et 3 défaites. Donc, on prend plus de points qu'eux. Il n'y a que Caen qui, sur les 6 derniers matchs, a 3 victoires et 1 nul. Mais après, tous les autres, et Auxerre qui a une série de 5 matchs sans défaite, mais avec 3 nuls au milieu. Donc, même ce top 5 qui est au-dessus de nous, si on prend pourtant nous les 5 derniers matchs, ce n'est pas notre meilleure série, mais on fait partie des 2-3 équipes qui prennent le plus de points sur les 9 premiers. Donc, il y a quand même ça aussi, à voir un petit peu les fameux matchs bascules. Est-ce que Angers, du coup, va remettre la machine en route une bonne fois pour toutes face à nous et nous faire rentrer dans le rang? Est-ce que nous, on va continuer sur cette série? C'est un petit peu le lot de cette Ligue 2. Caen, on les pensait très très bons en tout début de saison, puis ils ont une grosse période de mou, ils étaient tout au fond, et puis finalement, ils se sont replacés. Ajaccio qui sort un petit peu de nulle part. Grenoble et Laval qui faisaient un peu office de tube de l'été, mais qui sont encore là placés. On voit même que Bordeaux, avec la saison, si vous demandez à n'importe quel suiveur de la Ligue 2, un mot pour résumer la saison de Bordeaux, il va vous dire catastrophique, et pourtant, ils sont à 4 points derrière nous seulement. Donc voilà, il y a plein d'incertitudes, il y a plein de... C'est vraiment la loi des séries qui prévaut, c'est-à-dire une équipe qui fait une série, on l'avait vu, je reviens à cette série de 10 matchs où on n'avait pas perdu, où on trustait là pour le coup, on ne visait pas le top 5, on était en plein dedans, quoi. Donc Il suffit, voilà, de faire une série. Effectivement, en série, si on arrive à l'enclencher en jouant Angers, en jouant Auxerre dans les prochaines semaines, ben forcément, ça sera une série ultra positive si on gagne les matchs, puisqu'on jouera des adversaires directs. Le top 5, il est plus que jamais, même, j'ai envie de dire, à portée de fusil, quoi.
Non, non, mais ouais, c'est vrai que quand on regarde le classement comme ça, c'est un championnat très indécis. Il y a seulement 5 points entre la 5e et la 14e place, donc ça fait beaucoup. Et c'est vrai, tu l'as dit, Bordeaux, mine de rien, qui avait fait un peu une santé la saison dernière, ils se sont quand même refait une santé. Ils sont éloignés de la zone relégation, ils sont 13e au classement. Il y a quand même un wagon derrière la SSE, avec pas mal de clubs qui se tiennent en peu de points. On regarde de en haut, mais il va quand même falloir aussi faire attention à que ça revienne pas derrière. Alex, de ton côté, quoi, tu penses aussi que tu penses que la montée aussi accessible, enfin que le top 5 du moins, dans un premier temps?
Oui, le top 5, bon, bah, il est accessible. Hein. Voilà, je ne vais pas répéter que mathématiquement, il est accessible, mais surtout, j'insiste sur ce match à Angers, qui peut être lourd de sens, aussi bien mathématiquement qu'en termes de messages envoyés aux adversaires. Angers caracole avec ses 46 points. D'abord, voilà, on n'est pas là pour rattraper Angers, on est là pour rattraper Ajaccio, un point devant nous, et Caen également. Dans un premier temps. Je rappelle que la prochaine journée de championnat, même s'il en restera derrière, va opposer quand même Ajaccio à Laval, en déplacement du côté de Laval. Donc là, une des deux équipes va perdre des points. Caen part à Guingamp, on est dans un quasi-derby. Grenoble va à 3, 3 qui joue son maintien et qui vient de se faire dérouiller. Je pense qu'ils auront envie de montrer qu'ils valent mieux que ça. Donc, ça veut dire que devant, on peut encore perdre des points. Et ça veut dire que Saint-Étienne a vraiment une magnifique opération à faire du côté d'Angers. Et pour moi, c'est un match pivot. Après, derrière, c'est Saint-Étienne, on les connaît. Ils peuvent aller gagner à Angers et se faire lamentablement accrocher par Annecy à domicile. Mais chaque match va être pris. Alors, je vais la faire à l'ancienne, chaque match va être pris l'un après l'autre. Et je pense que Angers peut être une belle surprise si on l'emporte par rapport à l'opération qu'on va faire au classement et au signal qu'on va envoyer aux autres équipes.
Et ben on va en parler de ce match contre Angers. Juste avant, Gabriel, au chat, est-ce que les auditeurs croient en ce top 5 des Verts à la fin de la saison?
Alors, pour commencer, on a Mickaël qui nous dit que, comme ce qu'on disait un petit peu, la Ligue 2 est complètement folle. Comme tu disais, Hugo, le 14e n'est qu'à 5 points du 5e. Donc, c'est assez dingue. Albert sur YouTube qui nous dit justement que Angers sera un vrai tournant. En cas de victoire, les Verts reviendront à 8 points d'Angers. Donc, même la seconde place sera envisageable. Sinon, globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le top 5 est largement jouable. Mais on a quand même. On a quand même Amélie qui nous dit que la meilleure place à accrocher, c'est la troisième place et jouer contre la Ligue 1, parce que sinon ça nous rajoute un ou deux matchs. Donc ça sera plus compliqué. Stéphane Nouchi qui nous dit qu'il faut viser la troisième place, car même en terminant dans les cinq premiers, les barrages seront trop difficiles pour nous. Routra qui nous dit que le top 5 dépendra pas mal de Grenoble et Laval, qui sont aujourd'hui à 40 points. La montée directe sera très compliquée. Et globalement, ouais, c'est ce qu'on retient, que le top 5 va être accessible, mais que la montée directement va être très très compliquée quand même, car Auxerre et Laval sont assez loin.
Ouais, c'est vrai, pas mal d'indécisions quand même. Mais en tout cas, si on veut vraiment penser à monter, il va falloir commencer à enchaîner les matchs, hein, on l'a dit. Et ça doit commencer dès ce week-end, du coup, c'est tout de suite dans le prochain match.
Active Synthé Night Club. Le prochain match.
Prochain match contre Angers, donc simple sursaut d'orgueil ou réveil tant attendu, c'est ce qu'on va voir ce week-end. Les Angevins, je le rappelle, ils sont deuxièmes au classement et qui viennent de s'incliner contre le leader Auxerre. Je me souviens que nous avions gagné lors du match aller, donc sur ce match très sérieux, on l'a répété à plusieurs reprises dans l'émission. Quand même, à Raymond Kopa à Angers, ça risque d'être une autre histoire. Donc, d'après Optacarle que j'ai consulté, Angers est invaincu à domicile cette saison. 10 victoires et 2 nuls avec seulement 5 buts encaissés en 12 matchs. Donc, c'est quand même quand même du très solide. Alors, bis repetita ou pas, c'est ce qu'on va voir. Et c'est en tout cas un sacré gros test qui attend Auvers face à un gros du championnat ce week-end. Faire un résultat là-bas serait quand même de bon augure pour la suite. Alex, toi de ton côté, est-ce que tu es confiant pour cette rencontre?
Bah oui, on peut être que confiant. La victoire des Verts nous rend confiants. Et puis ce match, finalement, il me rappelle un petit peu un match qu'il y a eu en début de saison du côté de Laval, avec un Laval qui était invaincu aussi. Et puis que Saint-Étienne a fait tomber. Lançant par là une belle série également. Je pense que, encore une fois, mais je ne vais pas me répéter, mais voilà, il y a quelque chose à faire du côté d'Angers, c'est sûr. Ce Saint-Étienne-là qu'on a vu hier soir est capable de faire quelque chose à Angers. Et voilà, je suis plutôt confiant pour, en tout cas, que Saint-Étienne, en tout cas sur la capacité de Saint-Étienne et des joueurs stéphanois, à largement faire trembler Angers à domicile.
Bah on espère, ça, Saint-Étienne, le tombeur de gros, ça serait quand même sympa, assez flatteur. Toi, Hervé, est-ce que tu crois en cette victoire du côté d'Angers?
Bah, effectivement, on a déjà eu des matchs. Il y avait eu à Laval également, effectivement, où on avait été gagnés, on les avait fait tomber pour la première fois à la maison. On avait fait la même à Caen, un petit peu plus tôt dans la saison, qui était invaincu. Et puis on avait réussi à les prendre des points là-bas. Il n'y a que à Auxerre où vraiment on s'est fait gifler, où on partait avec l'espoir de faire tomber encore un gros chez lui. On n'a pas été déçus. Honnêtement, avec ce qu'on a dit plusieurs fois, l'humilité, pas d'enflammade, etc. Je pense que ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas. Arracher un match nul, ça serait déjà une bonne performance parce que bah, ils prennent pas de but chez eux, ils gagnent. Il n'y a que deux matchs nuls. Donc si on est, nous, la troisième équipe à réussir un nul au SCO, moi, ça me va très bien. Si on a la chance et le bonheur de voir les Verts gagner ce match-là, ça sera encore mieux. Mais par contre, avec voilà, le score d'hier, avec un état d'esprit, on va voir s'il est véritablement, j'ai même pas envie de dire retrouvé, mais plutôt trouvé. Voilà, peut-être qu'on va avoir une très très agréable surprise, mais c'est impronosticable, quoi. C'est franchement.
Gabriel, on entend ton.
Ouais.
Ouais, ouais bon, on verra du coup.
Et avec peut-être une bonne nouvelle, c'est-à-dire le retour de
Eh
Batu
ben justement,
Bintsika.
ouais, j'allais y
Voilà.
venir. On va probablement voir quelques retours dans le groupe. Bon, Batoubitika, tu l'as dit, mais aussi peut-être Tardieu, qui était malade cette semaine. Et quel choix s'offre? Il y a pas mal de choix qui s'offrent à Dalloglio. Du coup, Nadé qui s'est bien installé en défense centrale depuis quelques matchs, est-ce que Batoubitika retrouvera sa place tout de suite? Au milieu, on a vu Mokondi peut-être un peu en dessous. Est-ce que Tardieu va retrouver sa place directement aussi? Peut-être plus probablement. Hervé, je vais te laisser la main. Toi, tu t'attends à des changements ou est-ce que tu en souhaites de la part de Dalloglio aussi pour cette
Bah,
prochaine
mon conduit, moi j'ai toujours un petit peu de mal avec ce joueur. Alors hier, exceptionnellement, je l'ai vu faire trois tacles. Il est ressorti du match avec son short sale. Je pense que c'est une des premières fois que ça lui arrive depuis qu'il est à Saint-Étienne. Donc peut-être que lui aussi va s'y filer. Moi, ça serait le seul que je bougerais. Sissoko, je l'ai dit, est revenu de la CAN et il est performant tout de suite. Est-ce que ça sera pareil pour Batoubine Sika? Je ne sais pas trop. Ça pourrait le mettre en délicatesse de le faire rentrer sur un match comme ça à Angers. Donc ouais, moi je bougerai. Dieu pour mon conduit. Et après, ne pas oublier que hier il y a eu des entrants également. La fin de match un peu folle où on peut mettre 2-3 buts de plus. Maxence Rivera et Irvine Cardona, ils sont pas étrangers. Cardona, s'il est un peu plus adroit hier, il ressort avec un doublé et un penalty provoqué. Donc voilà, il y a cette notion de banc également qui paraît un petit peu plus, qui paraît aussi un petit peu plus étoffé qu'à une certaine époque. Donc peut-être aussi jouer là-dessus avec des entrants qui pourront amener. Leur pierre à l'édifice, ça va amener un petit truc en plus, quoi.
Non, mais c'est clair, avec le retour de tous les joueurs de la CAN, il y a quand même un bon groupe à Saint-Étienne et pas mal de possibilités. Alex, tu m'excuseras, je t'ai coupé tout à l'heure, mais du coup, toi, pour toi, quel choix a à faire Daloglio? Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport au match face à Troyes?
Ouais, moi je sécuriserais comment dire, l'arrière-garde centrale hein, en mettant Batoubensika à la place de Nadé. Non pas que Nadé a démérité, mais Batoubensika sort d'un match pour la troisième place contre l'Afrique du Sud où il a été élu meilleur joueur du match. Ça veut dire qu'il est en forme. Il est en forme et il a peu joué finalement cette CAN. Il a dû jouer 50% des rencontres. Donc il ne doit pas normalement être fatigué. Alors le voyage, la compétition, la tension, évidemment qu'il y a de la fatigue, mais s'il est dispo, s'il est suffisamment frais, il n'y a pas de raison de ne pas le titulariser. Après, pour mon conduit, en effet, c'est pas le joueur que j'attends dans le 11 qui va démarrer. Est-ce que Tardieu va être positionné dans ce 11? J'en sais rien. En tout cas, il a le profil, hein, il a le profil pour remplacer mon conduit. Il est bien dommage qu'on ne puisse pas compter sur Ouadji, en tout cas qu'il y ait des incertitudes autour de Ouadji. Qui a connu une alerte, on n'en saura pas plus finalement, puisqu'il semblerait que ce soit un secret défense, parce que Wadji est clairement un profil intéressant dans ces rencontres où il y a des chances qu'on subisse un peu. C'est un profil intéressant, mais Sissoko a amené quelque chose de positif, a montré qu'il était capable de jouer aussi dans un style de contre-attaquant. Donc voilà, c'est pour ça que je suis confiant et que ce groupe m'a plu hier et je ne demande qu'à le voir samedi pour qu'il me plaise à nouveau.
Eh ben on verra, on l'espère qu'il sera tout aussi séduisant. Gabriel, au chat, est-ce que les auditeurs croient en un résultat des Verts ce week-end à Angers?
Alors, un résultat, je ne sais pas, en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que le match sera crucial pour l'avenir de la saison. On a Stéphane justement qui nous dit que le match contre Angers pourra nous servir de match référence et prendre enfin conscience de nos forces. Routra 98, parce que je demandais si un bon résultat était possible à Angers. Il nous dit que ça va être très tendax, mais il y a moyen. Céline, le match à Angers sera un match référence pour voir notre niveau. Il y a Albert sur YouTube qui estime que le match contre Angers justement devra servir de confirmation. Si, avec le même état d'esprit, la SSE peut obtenir un résultat positif. Michael Estra qui voit bien une petite victoire 1-0 à Angers, donc comme le résultat qu'on avait fait à Laval notamment en début de saison. Sinon, on a aussi ceux qui sont un petit peu plus calmes, comme Tom qui nous dit qu'il signe tout de suite pour un match nul, qui sera un très bon résultat à Angers, qui justement, comme disait Opta Karl, n'a pas perdu à domicile. Sinon, sur les choix tactiques, on a beaucoup de personnes qui voient bien un retour de Batshuayi Mbisika. Qui justement fera que l'équipe sera encore meilleure et n'aura rien à envier à Angers. Ça, c'est Albert qui le dit. Albert, justement, qui voudrait bien aussi voir une association Sissoko-Wadji en pointe, même si ça pourrait peut-être condamner Mboukou, qui a été plutôt intéressant hier. Et sinon, par rapport à mon conduit, il y a Michael qui nous dit que mon conduit devrait rester à la place de Tardieu, au milieu de terrain. Donc, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais en tout cas. Ça a le mérite de se discuter.
Et en tout cas, ouais, on voit quand même qu'il y a pas mal de possibilités dans le 11 vert. Merci Gabriel. Et maintenant c'est l'heure, avant de finir l'émission, c'est l'heure du duel tant attendu. C'est l'heure du Centennial Club Challenge pour clôturer l'émission. Je vous rappelle qu'à chaque fin d'émission, on fait un petit quiz de 4 questions à nos chroniqueurs qui représentent chacun une association. Et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points, vous le voyez à l'écran, remportera l'ensemble de nos revenus pour l'association, bien sûr, qui l'aura choisi. Hervé, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement pour qui tu joues?
Donc moi, Prisme 21 Loire, association qui vient en aide dans l'intégration de personnes atteintes de trisomie 21.
Et de ton côté, Alex?
Non, moi, c'est les Petits Princes. C'est une association qui aide à exaucer les rêves des enfants malades.
Parfait, eh ben, on va pouvoir commencer tout de suite. On y va tranquillement avec un joueur à deviner pour commencer. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom et je vous donne la parole. Attention, ça peut aller vite. Je suis né en 1999 et je rejoins le centre de formation de Saint-Étienne en 2014. Je fais mes débuts en Ligue 1 contre Rennes en 2017 et je suis le meilleur buteur de l'équipe U19, donc je signe mon premier contrat pro dans la foulée. Je marque mon premier but en Ligue 1 en 2019 contre Caen. Je suis ensuite prêté à plusieurs reprises du côté de Châteauroux ou encore en national du côté du Sporting Lyon. À l'été 2022, je suis vendu au Dynamo Bucarest.
Alex?
Ouais, Alex?
Ah non, le Dynamo Bucarest m'a mis dedans. Non, non, j'ai pas de
Non, t'as
réponse.
pas. Je suis
Non, non.
au Dynamo Bucarest et je joue aujourd'hui du côté du club grec Levadiakos.
Mais.
Ouais, Alex?
Ah, Alex, Swissy?
Non, non, non.
Hervé, Abby?
Non. Je suis franco-algérien, je suis un joueur offensif. Ah, je pensais que vous l'auriez eu celui-là. Je
Ah,
suis.
Ghezali,
Ah ouais,
Ghezali.
Ghezali, bravo Alex, je suis l'ami de
Ah,
Ghezali.
ouais. Ah, j'avais, ouais, j'avais Swissy et il me manquait le deuxième. Voilà,
Ouais,
Ghezali.
c'est Lamine Ghezali. Un point pour Alex.
Bon, c'est bon, on
Il
a
est tout
pété
petit,
Arjos,
celui-ci. C'est
maintenant
bon.
tout va bien.
Deuxi
Ouais.
deuxième question, on continue avec un au plus proche cette fois-ci. Messieurs, dans cette splendide victoire, les Verts ont tout de même fait pas mal de fautes, on l'a dit, on récoltait 5 cartons jaunes au total. À votre avis, combien avons-nous pris de cartons jaunes depuis le début de la saison? Le tout en 24 matchs, je précise. C'est Alex qui commence à donner son chiffre puisqu'il a répondu à la première question. En 24 matchs.
30,
Combien, pardon?
34,
34?
34,
34, ok. Hervé, tu dis combien?
51.
51. Et bah la réponse, messieurs, c'était 43. Donc 34, et c'est, je crois, 40,
Ah.
34. Et bah je crois que c'est Alex qui gagne de 1 point. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 7 de différence entre.
Ouais.
30, ah non, 34, 43, non, je dis n'importe quoi.
Ouais, non, non, c'est Hervé.
C'est Hervé
Ah.
qui gagne de 1 point
Je suis
aussi. Ça
sport,
m'étonne.
Hervé, hein.
Ouais, non, j'étais en train de faire mes
Ah,
calculs, les maths,
t'es
moi, j'en fais
sport.
plus un moment. Et ouais, c'est
Fair play.
43. Figurez-vous qu'on est quatrième au classement fair play, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est la quatrième équipe à prendre le moins de cartons. Donc voilà, c'est surprenant, je ne m'attendais pas à ce chiffre, mais bon. Voilà,
Ouais.
voilà. Un partout, donc. Troisième question, va falloir commencer à départager. Et c'est une petite question mémoire maintenant. Ça va être assez rapide, c'est possible. Gagner 5-0, c'est pas tous les jours que ça arrive quand même, messieurs. Je vais vous demander d'essayer de retrouver l'équipe contre qui on avait gagné 5-0 pour la dernière fois en championnat uniquement.
Hervé, Alex, ouais. Bastia.
Ouais, Bastia. Et deuxième question, c'est deux en un. Un point pour Hervé. Là, encore avant Bastia, c'était quelle équipe? On était encore en Ligue 1 à l'époque. Et
Alex Rennes.
non, c'est pas Rennes.
Ouais.
Je vous donne un indice. C'était le match,
Ouais.
le seul match où Lamine Ghezali avait marqué son but. Et c'était en
Strasbourg?
2019. Non.
Non. Alex, quand?
C'est Caen. C'est Caen, bravo.
Ah,
On avait
putain.
gagné 5-0 à Caen. Nordin avait marqué un but aussi, je crois. Je sais plus si c'était le premier. Mais ouais, c'est la dernière fois en 2019 on avait gagné 5-0.
Ok.
Dernière question. Dernière question.
Donc, on est toujours ex aequo, là, hein?
Ouais, toujours ex aequo. Là, c'est la question qui a départagé, du coup. Moi, j'aime bien faire des questions 2-1. Des fois, c'est drôle. Ça change un peu. Et là, la dernière question. Hop, 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 hop. Une petite vente aux enchères pour terminer en beauté. Je vais vous demander, messieurs, qui pourra me citer le plus de joueurs passés par Angers et par Saint-Étienne? Alex, je vais t'essayer de dire un chiffre en premier.
Deux.
2. Est-ce que Hervé, tu enchéris?
Ouais, trois.
Alex, est-ce que tu enchéris à ton tour?
Quatre.
Est-ce que Hervé, tu dis mieux?
Est-ce que je dis mieux? Est-ce que je dis mieux? Est-ce
Attention,
que je dis mieux?
si on échoue, c'est point à l'adversaire, hein, bien sûr.
Ouais, non, je dirais 4, moi aussi.
Donc tu laisses la main à Alex.
Ouais.
Eh ben Alex, on t'écoute.
Bon.
Alors, 4 joueurs
Eh
passés par les deux
ben,
clubs.
il m'en fallait pas plus. Diony.
Ouais, Diony, bien sûr.
Bernardoni.
Bernardoni, ouais.
Cube.
Cube, ouais.
Et Johan Andreu.
Johan Andreu, bravo, bien sorti.
Ouais.
Ça fait 4.
Moi j'avais Bamba.
Et ouais, il y a
Ah
Bamba.
ouais, j'avais plus là, je pouvais plus
Il y en
là.
avait pas mal qui ont joué récemment. Il y avait Pavlovic, donc
Pavlovic,
ouais, il y
ouais.
a
Ah ouais. Oh,
Henri Cévé, Yoï Gravet, Enzo Crivelli, Anthony
ah putain.
Modeste, Gaëtan Charbonnier aussi qui a joué
Ouais,
à Angers,
il y
donc
avait plein. Ah
il
ouais.
y en avait pas mal. Bon, un point pour Alex, du coup, qui
Oh
l'emporte ce soir
là
avec un point d'avance.
là
C'est
là. Oh là là
l'événement de
là
la
là là.
soirée. Alex
C'est la semaine de tous les records. On
Ah ouais,
bat
là.
Angers samedi, je vous l'annonce.
Ça serait magnifique. Au beau duel, en tout cas. Bravo, messieurs. Merci pour cette émission. Merci aussi à toi, Gabriel. Et merci à vous, chers auditeurs. J'espère que vous aurez pris du plaisir ce soir à nous écouter. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous d'ici lundi prochain. Et bon match à tous ce week-end. Et surtout, allez les Verts. Ciao, ciao. Bonne soirée à
Salut à
tous.
tous. Allez les verts.
Steve!